Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Pascal Marcadji.
Question. Quoi de commun entre un être humain et une huître? La crise, bien sûr. Et de façon concomitante, avouez, l'année 2008. Car si le mollusque bivalve est muet, cela n'est pas passé inaperçu. 80% des naissins de cette année-là sont morts. 2010, l'huître est malade partout. Depuis l'Irlande, qui fournit grandement les élevages français, jusqu'à la Corse. 80% des naissins de l'année 2008. Car il faut 3 ans pour qu'une huîtres grandissent, sont morts en 2010. Jean-Noël Yvon, ostréiculteur en Bretagne Sud, très exactement à Locoal, Mandon, dans la Ria d'Etel.
Je suis ostréiculteur en Ria d'Etel depuis bientôt 35 ans.
Qu'est-il arrivé à l'huître?
Une étude récente qui est parue en 2009, publiée par la section régionale de conchyliculture de Bretagne Sud, a regardé justement les différences entre, d'un côté, les approvisionnements sur plusieurs années en nombre de naissins, en juvéniles, ensemencé. Donc on a des courbes avec des hauts et des bas qui sont très impressionnantes. Et une projection 3 ans après sur les huîtres de commercialisation. Et là, on n'a plus une courbe, on a une ligne droite. Ce qui veut dire que les années où il y a beaucoup de naissins, il y en a trop, on ne sait pas s'en occuper et on en fait mourir beaucoup. Et les années où il y a peu de naissins, il y a moins de densité sur les parcs et on a un taux de survie plus important. Donc on a peut-être intérêt à réfléchir à nos pratiques, à nos manières de faire. Moi, je sais que sur mes parcs, je suis en réalité plus près de 30% en dessous des schémas des structures. Je pourrais vous dire aussi que très très récemment, il y a une délégation de Japonais qui est venue faire une mission en Bretagne et ils ont été excessivement surpris des densités à l'élevage en France, dans tous les secteurs qu'ils ont vus. Donc il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup à nos pratiques. On a beaucoup besoin de se remettre en cause encore.
Les Japonais qui ont fourni les huîtres creuses à la Bretagne, où l'huître est naturellement plate, mais surtout, à quoi bon, interroge Jean-Noël Yvon, faire naître tant d'huîtres pour qu'il en meure autant?
Alors moi, c'est pas beaucoup. Avant les mortalités, on produisait entre 60 et 65 tonnes. Là, maintenant, je produis 50 à 55 tonnes. On a 10% de moins parce qu'on a dû adapter pas mal de choses par rapport à la crise. Grosso modo, je fais partie des entreprises en France qui ont perdu le moins de volume de production, probablement parce que j'avais, je sais pas, moins de densité, moins de mortalité. Il doit y avoir quelque chose dans les pratiques. Les entreprises en bêtes qui bronnent, par exemple, pour citer le secteur le plus proche, beaucoup d'entreprises qui produisaient entre 600 à 800 tonnes, ils en produisent 200 à 250. Donc là, effectivement, en termes d'emploi, il y a eu des dégâts qui ont été faramineux, alors que dans les petites structures, il y a beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'impact.
Les établissements Yvon et Fils, éleveurs d'huîtres depuis 4 générations, une petite structure qui a connu beaucoup moins de pertes que les autres.
Je recommence tout simplement à travailler comme j'ai appris à le faire quand j'avais 17 et 18 ans, où beaucoup d'huîtres qui étaient mises en élevage, voire la plupart, provenaient de bancs naturels, de juvéniles, qui étaient pêchés sur les bancs naturels et qui étaient mis en culture. Donc c'est un travail qui est très gourmand en main-d'œuvre, forcément. L'ostréiculture est devenue industrielle avec les closeries, en évitant de la manutention, mais on a généré surtout de la surproduction, donc des maladies derrière la surproduction. Donc en restant sur les méthodes naturelles, qui elles, malgré ça, malgré les méthodes naturelles, certaines années la nature était généreuse et on était à la limite de la surproduction, mais on n'a jamais manqué d'huîtres. Pourquoi en faire de trop et en faire plus? Et en restant comme ça, on conserve plus d'emplois, plus d'unités de production sur le littoral. Donc c'est aussi tout l'aménagement du territoire qui est important. Donc ça déborde de loin les problèmes simples liés à la production ostréicole.
Le détail qui tue au propre et non pas au figuré, la différence entre une huître née en écloserie et une huître née en mer.
Une ostréiculture durable et solidaire, avec toute une charte de qualité sur le produit d'une part, avec des respects, des traditions, parce que les anciens étaient loin d'être fous, avec des densités à l'hectare qui sont nettement plus faibles que ce qui est préconisé dans le schéma des structures, mais aussi des pratiques environnementales dans les entreprises et dans la manière de fonctionner à terre, dans les bâtiments, au bureau.
Le réseau Cohérence, Radio Éthique vous en a déjà parlé, c'était avec un éleveur de porc, Port, à Quévert, en Bretagne-Nord, eh bien, le réseau Cohérence, ce n'est plus seulement les cochons, mais aussi les huîtres. Le réseau Cohérence, pas de chèque en blanc, entre guillemets, la certification est annuelle, le travail de préservation de l'environnement, le fameux lien entre la terre et la mer, les paysans de la terre et ceux de la mer, a été initié, tiens, en lien avec un certain Pierre Molot, mais quant aux aides européennes, eh bien c'est non.
Ah non, on se prend par la main et moi j'y vais avec simplement une volonté farouche d'y arriver, c'est tout, hein, et de respecter les cycles naturels. J'ai passé ma vie à travailler un produit qui est vivant. J'ai appris petit à petit, grâce à des gens merveilleux comme Pierrot Molot, à apprendre à décoder ce que voulait nous expliquer la nature. Et il suffit de suivre ça, c'est tout. Le bon sens, il suffit du bon sens.
Nous aimons l'huître qui, elle, aime une eau bien oxygénée, salée mais pas trop, sans variation trop brutale de température non plus. Et oui, le mollusque est délicat et bien sûr aime une eau riche en plancton, sa nourriture. Or, même si les huîtres sont mangées par trop de prédateurs à notre goût, depuis la dorade jusqu'à l'étoile de mer, c'est encore en milieu naturel qu'elle survit le mieux. Mais au fait, quel goût ont donc les huîtres de Jean-Noël et Yvon?
Ah, alors là, c'est quelque chose qui est pas simple. D'abord, il y a une partie des choses correspondant au goût. Je sais que la plupart du temps, il y a des études très très sérieuses qui ont été faites là-dessus. Le goût de l'huître représente du plaisir et du sourire. Et ce plaisir et ce sourire est souvent lié à un site, à un lieu ou à un homme, une femme qui gère une production. On est dans l'Aria d'Etel. Il y a des influences marines, mais des influences terrestre aussi. On a monté toute une démarche entre les paysans de la terre et les paysans de la mer, comme on s'appelle chez nous, pour protéger la qualité de l'eau. On est sur des eaux avec une salinité entre 30 et 32 pour 1000 par rapport à 35 pour 1000 au large. Donc on a un mélange de douceur et de goût iodé, mais aussi un goût qui évolue dans l'année. L'huître n'a pas toujours le même goût, c'est assez compliqué. Il y a des périodes de croissance, il y a la période de reproduction. Il y a des périodes de froid où il y a moins de plancton, donc elle va être peut-être un petit peu moins charnue en hiver. Moi, je préconise de manger des huîtres à l'automne et au printemps, c'est là où elles sont les meilleures.
Que vivent les huîtres dites sauvages, celles qui naissent en mer, c'est encore ce qui se fait de mieux pour nous, aussi bien que pour l'environnement, que les mois, eux, soient en air ou non.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.